Bonjour à tous, c'est Jean-Christophe Drouet, le golf pour tous, c'est notre maxime sur RMC, notre volonté rendre ce jeu populaire, vous donner envie de vous y mettre, casser les codes aussi, c'est exactement la vision de nos partenaires. U-Golf et Blue Green, grâce à eux, vous pouvez tous jouer au golf. C'est l'épisode 6.
Le Practice RMC, Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous les amoureux de la petite balle blanche, très heureux de vous retrouver pour l'épisode 6 du Practice RMC. Au programme, nous allons vous accueillir, chers auditeurs, pour répondre à toutes vos questions sur votre jeu ou sur le golf en général, ne vous privez pas. Le 19e trou de Simon Dutin, salut Simon.
Salut JC, salut tout le monde.
Que faisons-nous au 19e trou aujourd'hui?
Ah, c'est un des meilleurs joueurs du monde, Patrick Cantlay, devenu bien malgré lui, le symbole du jeu lent sur le circuit pro. Ne rigolez pas parce que vous aussi vous emmerdez certainement le monde le dimanche après-midi, on va en parler.
C'est possible. Je vous présente nos consultants, comme d'habitude, Ramucho Artola, notre prof de golf. Salut Ramucho.
Salut JC, bonjour à tous.
Patron de l'enseignement du golf Blue Green de Pessac, Fabien Donoyan. Salut Fabien.
Salut JC, bonjour à tous.
Directeur général adjoint et directeur de l'académie U-Golf et Blue Green, Martin Coulon. Salut Martin.
Salut JC, salut tout le monde.
Ancien reporter à l'équipe et ancien rédacteur en chef adjoint du journal du golf. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts à conseiller au mieux nos amis golfeurs?
Ouais, carrément. Contrairement à la croyance populaire, le golf n'est pas une perte de temps.
Vous connaissez pas les règles du golf.
C'est celui qui arrive en premier dans le trou qui a gagné.
Maintenant, il y a des tas de règles.
Le golfeur moderne possède un équipement standard comprenant toute une série de clubs testés et homologués.
On va donner la petite auto, là. Il me manque encore les boules et les sticks. Hein.
La main droite se glisse délicatement sous la main gauche et on place l'index juste en dessous.
Le torse en avant. Encore.
Le golfeur doit se plier à cette règle fondamentale. Jouer la balle là où elle se trouve.
Mais c'est pas autorisé, mon vieux. Vous n'avez pas le droit de jouer avec les balles de practice.
Depuis combien de temps jouez-vous au golf?
J'ai 10 minutes.
Le Practice RMC.
Vous avez même pas eu le temps de répondre à ma question. Vous êtes prêts à conseiller au mieux nos amis golfeurs?
Ah oui, absolument.
À fond, JC.
Nous allons en accueillir quelques-uns. Geoffrey est avec nous. Salut Geoffrey.
Salut.
Salut Geoffrey.
Geoffrey, tu peux poser ta question à l'Assemblée et nous allons tenter d'améliorer ton jeu. On t'écoute.
Alors en fait, ma question est peut-être un peu particulière. J'ai la chance de jouer depuis 30 ans, j'ai 37 ans. Et en fait, je ne prends plus de plaisir à jouer.
Ok, t'es index combien, Geoffrey?
Ça doit tourner aux alentours de 9-10.
9-10, ok. Tu prends plus de plaisir à jouer. Fabien, qui veut se lancer sur cette question?
J'ai l'impression d'aller au boulot quand je vais au golf.
Oh. Ah oui.
D'accord. Mais depuis combien de temps tu as cette vilaine sensation?
Ça va faire un an.
D'accord. Et je ne sais pas, ça fait un an. Et pour quelle raison? Parce que tu en mets partout? Parce que tu n'arrives plus à scorer? Parce que tu as de mauvaises sensations quand tu tapes?
En fait, on va dire que je me contente et je me satisfais que des bons coups.
Ça me rappelle quelque
J'arrive
chose.
J'arrive plus à prendre de plaisir et à me dire je suis là pour me faire plaisir, quoi.
D'accord. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire alors?
C'est vaste. Et tu joues seul, tu joues avec des potes, tu vis comment, t'es parti?
Je peux jouer avec des amis, je m'entraîne seul. J'ai essayé franchement plein de choses pour reprendre du plaisir. Mais dès que je suis sur le parcours, je me satisfais que des bons coups. J'ai l'impression de faire toujours la course à l'index et des choses comme ça, quoi.
Ok, tu veux...
Vas-y, Martin.
Je sens Martin bouillant.
Ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup parce que ça m'est arrivé, moi, dans mon humble petite carrière amateur, d'un moment de dire, mais pourquoi je joue au golf? Et la base de jouer au golf, on est d'accord, c'est quand même justement de prendre du plaisir à taper des bons coups. Oui, mais de temps en temps, à rattraper des mauvais coups, surtout. Est-ce que ça t'arrive de jouer autrement qu'avec une carte dans la poche et autrement qu'en comptant tes coups sur le parcours?
J'ai du mal à jouer sans compter. Voilà.
Et est-ce que ça t'arrive de jouer en match play, tout simplement? Avec d'autres gens, d'autres niveaux.
Ouais, match play, justement, quand je fais des match play, je suis bien meilleur.
Par hasard, dis donc.
C'est le petit péché gourmand de Martin Coulon, le match play.
Mais évidemment, parce que c'est là où tu as la substantifique moelle du jeu, parce qu'il n'y a pas l'enjeu du score. Il n'y a pas l'enjeu de la carte dans la poche. Et c'est ça le truc compliqué au golf, à mon sens, d'humble petit amateur que je suis encore et que je resterai toujours. C'est la pression de la carte de score et la pression du score. Et c'est ça qui, de temps en temps, nous enlève le plaisir de jouer. Et en match play, il n'y a pas vraiment de score. Il faut faire mieux que l'adversaire. S'il fait 40 000, si tu fais 40 000 moins 1, tu as gagné le trou et puis on n'en parle plus.
Juste simple petit amateur, tu joues scratch quand même. Hein. Donc, bon, amateur, oui, mais tu as quand même un sacré niveau.
Ouais.
Fabien.
En fait, moi, je souscris à ce que tu dis et je pense qu'effectivement, on peut prendre plus de plaisir en faisant un match play parce que si on rate un coup, ça ne pénalise pas la carte de score. Mais dans ton cas précis, tu aimerais prendre du plaisir et faire un score. Moi, j'aimerais juste savoir sur quel coup, est-ce que tu as un coup particulier qui t'handicape et je sais pas, moi, tu drives plus comme il faut, tu n'arrives plus à toucher les greens. Est-ce qu'il y a, parce qu'à 9 d'index, on a quand même une volonté de toucher, à toucher les greens, de l'envoyer au milieu depuis le départ. Qu'est-ce qui te donnerait ou quel coup te donnerait la satisfaction et qui te permettrait de prendre ton pied sur le parcours?
Après, forcément, on a tous des points faibles. Moi, mon point faible, c'est plutôt le driving, parce que les balles peuvent parfois un peu dévier et dévisser. Mais oui, si, c'est sûr que si je fais une partie où je drive tout le temps bien, je me sens mieux.
Okay. Alors, Ramucho, tu voulais ajouter quelque chose?
Non, mais il y a le match play, effectivement. En fait, il ne faut pas que tu te... Il faut que tu acceptes le niveau de ton jeu, mais il faut surtout que tu diversifies l'offre, quoi. Il ne faut pas que tu fasses que du stroke play avec la carte dans la poche. Comme l'a dit très justement Martin, tu peux faire des match play, tu peux faire aussi des doubles également avec des potes. Il y a tellement de formules doubles vachement ludiques qui vont te donner... qui vont te redonner le goût au jeu et tu ne seras pas très éloigné du score. Hein, donc, claque des scores déjà en double et ce sera déjà une bonne chose, franchement.
Alors, puisqu'on est quand même là pour donner un conseil technique et te permettre de progresser et te permettre de prendre plus de plaisir, dans le cas précis que tu décris, c'est qu'en fait, tu manques de régularité. Et si tu manques de régularité, tout simplement, c'est que tu ne centres pas la balle majoritairement et où tu la prends un peu dans le talon ou tu la prends dans la pointe. Moi, ce que je te propose, c'est un tout petit truc, ça peut même être hyper ludique, ça ne va pas te coûter cher.
Okay.
Tu vas acheter un marqueur, voilà, un marqueur indélébile. Mm-hmm. Avec ce marqueur, tu vas faire un trait sur ta balle, assez grossier, pas tout le long de la balle, mais assez grossier. Tu vas positionner ce trait de façon à ce qu'au moment où la tête de club va rencontrer le trait, ça va mettre une marque sur ton du driver au sand wedge. Et je peux t'assurer que si tu te concentres sur le fait et si tu arrives à moins la prendre dans le talon, moins la prendre dans la pointe, et le marqueur va te permettre de voir exactement
où tu prends la balle.
Okay. Parce que ce qu'il faut savoir, quand bien même tu puisses faire un swing qui est plutôt correct, mais si tu la prends un tout petit peu dans le talon avec le drive, tu vas faire un slice. Si tu fais la même chose... Et si tu la prends dans la pointe avec le driver, en fait, ça ouvre. Je ne vais pas rentrer dans des termes trop techniques. Mais rien que ça, depuis le départ, si tu veux être beaucoup plus régulier, il faut que tu sentes la balle. Et pour savoir la centrer, tu dois forcément te rendre compte de l'endroit où toi, si c'est majoritairement dans le talon ou majoritairement dans la pointe. Ensuite, très rapidement, si tu la prends dans le talon, tu prends un capuchon de... Donc, tu fais la même chose. Tu prends un capuchon de club, tu mets ce capuchon juste devant ta balle et tu dois vraiment t'efforcer de toucher que la balle et absolument plus le capuchon. Et alors là, je peux t'assurer à 2 milliards de pourcents que tu la mettras plus ni à droite ni à gauche et que tu vas prendre beaucoup de plaisir parce que tu vas la prendre dans le gras du club et évidemment, le plaisir ne sera pas le même et tu verras, par conséquence, bah, tu vas la mettre plus au milieu et tu vas mieux scorer. Et tu fais la même chose avec les fers. Et si jamais tu vois que tu la prends trop dans la pointe, tu fais un exercice tout bête. Tu prends ta balle et devant ta balle, tu mets un bout de tee, même cassé, juste devant ta balle. Et ton objectif, c'est de toucher la balle et toucher le tee. Et là, tu la prendras plus dans la pointe. Tu vas de nouveau la centrer et tu vas prendre ton pied.
Ok, bah voilà, prends ton pied et joue en match play très rapidement parce qu'on a beaucoup d'auditeurs qui nous attendent.
C'est pour rassurer Geoffrey, pour revenir sur ce que disait Ramucho, jouer en double avec des formules nombreuses et variées, c'est super parce que moi je joue indifféremment avec toi ou avec Martin et à chaque fois je prends le même plaisir. Tu vois, pourtant c'est pas les.
Bah pas nous.
Ouais. C'est pas de même niveau.
Merci les mecs.
Bon, Geoffrey, merci d'avoir été avec nous. J'espère qu'on a été
merci beaucoup.
Salutaire pour toi et que tu vas reprendre du plaisir et tu nous rappelleras dans le Practice RMC. Merci d'avoir été avec nous sur RMC. Sébastien nous appelle. Salut Sébastien.
Salut JC.
Merci d'être avec nous, cher Sébastien. Ouais. Explique-nous, pose-nous ta question.
Alors moi, ma question pour une autre chose, c'était... moi, j'habite à Londres et je suis débutant. J'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Et j'ai pas énormément de place chez moi, et avec le travail, j'ai pas toujours le temps d'aller aux pratiques, donc je voulais savoir si Ramucho avait un exercice pour m'aider à travailler mon swing à la maison sans taper dans la balle.
Ah, travailler le swing à la maison sans taper dans la balle.
Ah là 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 là, mon Dieu, mais la base du golf, c'est la balle.
Oui, mais s'il a envie, il est en train de faire la vaisselle et il se dit, tiens, attends, c'est vrai, le swing, comment je fais? Voilà, est-ce qu'il y a un petit tips, quelque chose ou pas, Ramucho?
Ah, sans pousser les murs.
Ah, oui, sans pousser les murs, oui. Il y a quelque chose ou pas?
Oh, tu peux faire de la révision. Tu vas, par exemple, pour ressentir une coordination entre le côté gauche et le côté droit, voilà, tu te places en posture. Là, tu places les deux doigts de main collés l'une à l'autre et tu exécutes tout bêtement des mouvements de balancier ou en continu ou en fractionné. Voilà, ça c'est pour... Voilà, là, c'est très basique, c'est pour remémorer ce que doit faire le haut du corps.
J'ai l'impression qu'on le fait tous, ça. C'est-à-dire qu'on, ça nous arrive tous dans une journée à essayer de prendre une bouteille d'eau, je ne sais pas quoi, et à essayer de faire ce mouvement de balancier. Oui, c'est vrai.
Pardon, je disais que tu avais des sacrées grandes mains. Une bouteille d'eau, c'est grand. Un petit stylo, peut-être.
Oui, t'as raison. Mais tu sais ce qu'on dit sur les gens qui ont des grandes mains. Grand gants. Voilà, c'est pour éviter que je réponde. Oui, Ramucho, pardon, je t'ai coupé.
Même chose, même position, même système, mais tu vas élaborer en reculant le pied droit. Tu places un stick au niveau des épaules et là, tu vas vraiment visualiser et coordonner le bas et le haut. C'est un travail de dissociation entre le haut du corps et le bas du corps. Voilà, c'est juste des répétitions pour pas que le corps s'engrouille, pour pas que le corps l'oublie, les bases de son boulot. Et évidemment, tout ça, tu vas le reproduire, j'espère, assez vite, même à Londres, sur un parcours de golf.
Ouais, t'as pas l'occasion de beaucoup jouer, Sébastien ?
Là récemment c'était un peu compliqué à cause du travail et vu que je suis débutant j'ai pas toujours le temps et j'ai encore pas le niveau donc j'essaie d'y aller régulièrement mais j'y vais pas plus d'une fois par semaine et même une fois par semaine c'est compliqué en ce moment.
Ok, bon, merci d'avoir été avec nous.
Une petite chose aussi, avec un élastique, j'ai oublié, j'y pense maintenant, avec un élastique tu l'accroches en haut d'une porte et tu travailles la transition là aussi entre le haut et le bas et la traction entre du bras gauche vers l'objectif. Voilà, en plus ça va te muscler ton haut du corps. Et ça sera que favorable. Un élastique que tu accroches en haut d'une porte et tout va bien.
Bim. Ok. Martin a aussi quelque chose à rajouter.
Oui, c'était en lien un peu avec les histoires de bouteilles et de grandes mains. Non, bref, c'était moi ce que je trouve intéressant avec cette idée-là, c'est de garder contact avec le club. C'est tout bête. Et surtout pour quelqu'un qui débute comme Sébastien, le truc qui n'est pas évident au début, c'est d'avoir le contact avec le grip, déjà d'avoir un grip qui est à peu près cohérent. Et c'est, alors je parle sous contrôle des autorités
sur
compétentes.
Un sujet glissant, là.
Des autorités compétentes, mais je veux dire, avoir la sensation du bon grip. Alors, tu peux avoir des grips moulés, je sais pas, ça existe encore des clubs, tu sais, avec des grips moulés. Donc, c'était mon idée. Apparemment, elle n'est pas très, très bonne.
Non, mais juste une question, Sébastien. Tu peux faire des swings chez toi ou pas?
Oui, je peux, parce que j'ai une petite terrasse, c'est juste que je ne peux pas taper dans la balle, quoi.
Mais pourquoi, aujourd'hui, tu sais qu'il existe des balles totalement décompressées en mousse et qui cassent, j'allais y venir également, mais c'est toujours quand même beaucoup mieux, un geste sans balle, ça correspond à rien, très sincèrement, parce que tu peux en faire 10 milliards, une fois que tu vas arriver sur le parcours ou le practice, tu vas mettre une balle et tu n'auras pas évidemment la même sensation. Donc si tu peux faire un swing et effectivement si taper une balle en mousse et qui ne casse rien du tout, hein, il en existe et on pourra te donner des conseils évidemment pour en acheter, c'est toujours mieux. Même si tu peux faire pas un full swing si tu fais, mais garde le contact du mouvement avec une balle.
Quand j'étais jeune, il y avait même les balles en plastique trouées, qui avançaient à 20 cm.
Tout à fait.
Ok, voilà.
Mais en revanche, les conseils de Ramucho, c'est hyper important parce que ça te permet effectivement de garder, et même physiquement, c'est super important. Mais je te conseille quand même, c'est un sport de balle, c'est un sport où on crée des trajectoires et il faut que absolument, si tu le peux, et ça existe aujourd'hui, de taper dans une balle.
Parfait. Bon, installe ça sur ta terrasse. Merci beaucoup, Sébastien, d'avoir été avec nous. Et bon golf et à bientôt dans le practice. Emmanuel nous appelle. Salut, Emmanuel.
Oui, bonjour tout le monde, bonjour Jean-Claude, bonjour Jean-Christophe.
C'est pas grave, t'inquiète pas, on a déjà appelé Jean-Claude, Jean-François, Jean-Bernard, t'inquiète pas, je sais que c'est un prénom composé, donc c'est moche.
Ça passe, voilà, le dimanche ça passe, hein. Grande gueule du sport ça passe. Hein.
Exactement. Ouais. Emmanuel, vas-y, pose-nous ta question.
Alors moi ça concerne le tipping. En fait je suis relativement à l'aise sur le tipping, sur toutes les balles roulées. Et par contre dès qu'il faut lever un peu la balle, c'est un cauchemar total quoi.
Okay.
J'aurais voulu savoir s'il existe quelque chose pour améliorer ça, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'on se sent, et je parle en connaissance de cause, hein, on se sent plus en... C'est plus facile, on en met moins partout avec, quand on chip au pitch, plutôt qu'avec le 56. Ramucho.
Un petit chip lobé qui va te faire sortir de mauvaises situations. Voilà, bah, très simple le chip lobé. Il ne faut surtout pas que tu cherches à la provoquer en la cueillant ou en la coupant. Ça, on oublie parce que sinon, tu vas les délaisser. Donc, très simple. Alignement square 1, voilà, très square. Placement, balle intérieure, pied gauche. Stance large. Main gauche, allez, un tout petit peu ouverte sur le grip pour maintenir la phase de club ouverte tout le long du coup. Voilà. Petit swing classique, rythme régulier avec une légère rotation du corps et puis tout va bien. Voilà. Mais surtout, n'essaie pas de couper la balle ou de passer dessous.
Ton problème, c'est de passer dessous ou c'est parfois de décélérer et donc de gratter tout simplement?
Bah c'est plus la gratte. Hein. C'est plus de gratter et je me dis, est-ce que je peux garder le même club pour faire le roulé et le lobé? Ou est-ce qu'il faut que je change forcément de club?
Ah, bonne question.
Les deux sont justes. Tu peux garder le même club ou le varier. Les deux sont justes.
Ok, mais il faut l'ouvrir un peu.
Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Alors... Très bien.
Ouais, en fait, juste pour compléter, il faut que tu fasses attention de savoir si c'est vraiment un top ou si la balle, tu ne la prends pas dans le talon, hein, dans le tube. Et ça peut, visuellement, ça peut être la même chose, sauf que ce n'est pas les mêmes conséquences. Et ensuite, si tu fais beaucoup de gratte, un tout petit conseil, un petit exercice hyper simple, tu mets un tee et tu fais quelques coups d'essai en te concentrant la balle, hein, en te concentrant. Mmh. Sur les coups d'essai que tu vas faire pour ne pas toucher le tee. Donc en fait, tu cherches avec ta phase de club à passer au-dessus du tee. Ensuite, tu mets la balle et tu en tapes 3-4 en cherchant à choper que la balle et surtout sans choper le tee. Et ensuite, tu remets la balle au sol et tu essayes de toucher que la balle. Et tu verras qu'en fait, c'est très drôle, quand on demande aux gens qui font des grattes de l'exercice du tee, bah, il ne touche pas le tee, c'est-à-dire très majoritairement, il passe au-dessus du tee. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en capacité de contrôler la hauteur d'arrivée de ta phase de club au sol. Donc, tu le fais tee sans balle, tu fais tee avec balle et ensuite, tu mets la balle au sol en te concentrant sur la hauteur. Et tu verras que par miracle, tu es tout à fait capable, et même sur un petit coup, de gérer ta hauteur d'arrivée à l'impact.
Je reconnais que moi souvent, un petit peu j'imagine comme Emmanuel, je faisais pas mal de coups roulés, j'étais plus en confiance, c'était moins difficile. Je suis passé au chip avec le 52, le 56, ça s'est bien passé dans un premier temps, dans un autre un peu moins, et je suis un peu revenu sur le coup roulé parce que j'ai l'impression que je vais gagner en efficacité.
En fait, oui, en fait, ce qui est difficile quand on d'utiliser son sand wedge et pour faire un coup plus levé, c'est qu'on a toujours l'impression que la balle, d'une part, doit monter très vite et qu'ensuite, on a peur d'aller trop loin. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on prend un élan beaucoup plus important que la distance va le demander et on a un réflexe et qu'on le sent, donc on freine. Et si on freine, ben, on baisse le corps, ça fait une gratte ou alors on a ce vilain réflexe, voilà, de retirer les bras et de créer ce top ou cette gratte. Mais quelque part, c'est dans la notion, en fait, de coup, c'est de pouvoir gérer l'amplitude. En fait, si tu prends ton fer 7 ou tu prends ton sandwich, si tu crées exactement la même amplitude, bah, tu verras que le love du club joue son rôle complètement naturellement.
Ok.
Je te trouve un peu dur à toi. Je t'ai vu. Oui, pardon, juste pour que JC reprenne confiance en lui. Moi, je l'ai vu faire quelques petits miracles récemment autour des greens.
Ouais, mais j'étais au pitch. Oui. Tu vois, parce que j'étais plus en confiance.
En plus, l'avantage du sandwich, c'est qu'il a un rebond. Et qu'avec ce rebond, donc ce rebond permet de glisser sur le sol. Donc c'est encore plus simple.
Ok, merci Emmanuel. J'espère qu'on a été assez bon pour toi et que tu vas tenter ces petits chips lobés. Même si je dois avouer que parfois rouler, bah voilà, c'est commercial et au moins on n'en met pas partout. Merci Emmanuel.
Voilà, c'est ça.
À bientôt.
De rien.
Merci d'avoir été avec nous. Bonjour Hervé.
Bonjour à tous.
Salut Hervé.
Hervé, on t'écoute. Salut. Pose-nous ta question.
Alors, j'ai deux questions, je gratte un peu, mais la première, c'est comment savoir qu'on a trouvé le pro qui nous correspond ?
Ok, pour l'enseignement, voilà. Tu veux poser ta deuxième Marie. Tout de suite ou pas ?
Ouais, je vais poser la deuxième parce que c'est un peu lié. Bon, il y a de plus en plus de contenu sur les réseaux. Ça va du petit drill au conseil technique ou voilà. Et il suffit que, par exemple, admettons, je vais chez YouGolf, je prends un cours et le soir, je regarde une vidéo. Ça peut être un coach en cani ou autre. Et cette vidéo va mettre quelque chose dans ma tête d'autre. Ça va mettre le merdier, entre guillemets.
Okay.
Et là, j'ai l'impression que le fait qu'il y ait plus en plus de contenu sur Internet, ça peut parfois fausser l'enseignement. Et certains élèves même s'autorisent le droit de challenger leur prof. Ah, j'ai vu quelque chose sur Internet. Enfin voilà, la relation pro-élève est complètement devenue différente grâce ou à cause d'Internet. Et dans ce contexte-là, je voudrais savoir comment trouver le pro qui va enlever les doutes et qui va savoir faire un travail dans la durée cohérent. Avec un élève.
Bah c'est parfait, on a deux pro-enseignants avec nous, Ramucho et Fabien. Bah oui. Fabien, tu débutes, hein, tu gères aussi l'enseignement UGolf Blue Green. La relation déjà pro, et on s'est tous posé la question, et amateur, comment on est sûr d'avoir trouvé le prof idéal ?
Alors, ouais, et je te remercie pour cette question, parce qu'elle est fondamentale et elle est hyper pertinente. En fait, alors je vais enfoncer une porte ouverte, mais celui qui te correspond, c'est celui qui va te faire progresser. Mais pour qu'il te fasse progresser, il faut absolument que le message qu'il te délivre soit le plus simple possible et que tu puisses également le comprendre. Moi, je déplore trop souvent que les élèves ne challengent pas suffisamment leur enseignant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand l'enseignante ou l'enseignant va délivrer son truc, et parfois de manière beaucoup trop technique, hein, je l'assume, hein, même en ayant 200 enseignants, enseignantes dans l'académie YouGolf et Blue Green, je me bats avec ça pour vraiment créer de la simplicité et surtout écouter les élèves, connaître leurs problèmes, et ça peut être également au départ des problèmes physiques, un mal au dos ou certaines choses, et ensuite leur envie. Est-ce que je veux faire du golf loisir ? Est-ce que je veux faire du golf en compétition ? Est-ce que je veux baisser mon index ? Et à partir de là, le message qui doit être délivré doit être le plus simple possible et le plus en adéquation avec la volonté instantanée de l'élève. C'est-à-dire que chez nous, donc chez YouGolf et Blue Green, si je ne sais pas quelle est ta problématique, mais si tu fais du slice, tu dois au bout de 10 minutes maximum comprendre et ne plus faire de slice. Et inversement pour du draw, inversement pour des grattes. Ça, c'est fondamental. Et aujourd'hui, on sait pertinemment de quelle manière on peut amener les élèves dans quelque chose de plus simple. Parce que ce qui est déplorable parfois aussi dans nos métiers, c'est qu'on va délivrer une leçon, qu'elle soit individuelle ou collective, et on sait pertinemment que les personnes qui ensuite qu'on va lâcher vont être perdus. Donc, cette simplicité dans la pédagogie, dans la connaissance technique, dans cette volonté de faire progresser les gens et qu'ils comprennent la transmission qu'on veut leur donner, c'est hyper important. Et ce qui empêcherait la deuxième chose, qui est pour moi dramatique, c'est d'aller pêcher des conseils sur Internet, pas du tout parce que c'est pas bien, hein, parce qu'il y a des choses qui sont très bonnes, mais les personnes qui délivrent le conseil que tu vois sur Insta, que tu vois sur peu importe où d'ailleurs, ben ils ne te connaissent pas. Donc, ils ne savent pas que ton problème, ça peut être simplement un problème de centrage, que ça peut être simplement un problème de position de balle, que ça peut être simplement... ils ne le savent pas. Donc, tu vas aller boire des paroles qui vont être vraies, mais qui vont être totalement à l'encontre de ce que tu as besoin et peut-être de ce qu'on te fait travailler.
Ok, c'était très clair. Vous voulez tous rajouter quelque chose, les copains. Vas-y, Hervé, tu voulais dire ?
Ouais. Par exemple, je sais que YouGolf a fait venir Chris Como il n'y a pas longtemps. Tu me confirmes, Fabien, Chris Como, c'est un peu le référent.
Ah, c'est plus que le référent, parce que non seulement c'est un coach immense, mais c'est aussi
ancien coach de Tiger Woods.
C'est aussi un type qui a des qui a des connaissances dans la partie technique de golf, mais également dans, dans la manière dont un corps peut bouger, la manière dont les forces, parce qu'aujourd'hui, l'enseignement a totalement bougé, qu'on débute ou qu'on soit au plus haut niveau, ça ne se gère plus de la même façon. Aujourd'hui, les joueuses et les joueurs de très haut niveau, et c'est ce qu'on doit amener aussi dès le début, c'est qu'on utilise beaucoup plus le sol, on utilise beaucoup plus les forces et on utilise beaucoup plus la trajectoire de balle au service des corrections techniques et plus l'inverse.
Ok, Ramucho, vas-y.
Oui, concernant un bon pro, je souscris tout à fait ce qu'a dit Fabien au niveau professionnel pur, mais il y a aussi le côté humain et un bon pro ou un pro qui va t'apprécier ou tu as une relation durable avec lui et efficace. Il ne va surtout pas rejeter Internet, il va faire l'interface entre le conseil que tu as lu, que tu as vu sur une vidéo quelconque, et il saura même de te dire si elle te convient ou pas. Voilà, mais ça n'est en aucun cas un bon pro hein, qui se respecte ne va surtout pas rejeter ce que son confrère a dit. Il va surtout te guider et te faire comprendre si effectivement tu as une vidéo qui te correspond par rapport à tes petits défauts ou pas. Voilà, donc tu dois juste te servir de guide. Et ça, c'est très, très, très important.
Ok, Martin, et après Simon.
Ouais, ouais, là, c'est vraiment moi, le joueur au sens premier du terme qui va parler. Mon expérience que j'ai eue des quelques pros que j'ai eu, j'en ai pas eu des masses d'ailleurs. Mais moi, ce que j'ai toujours cherché chez mes pros, bon, bah, au début, quand on débute, on a besoin des bases, etc. Donc, j'ai presque envie de dire, pas peu importe le pro, mais pas loin. Mais plus on progresse, plus moi, ce que j'ai toujours cherché, c'est à ce que mon pro me rende autonome. C'est-à-dire que moi, j'ai pas envie d'un pro pansement, j'ai pas envie d'aller voir mon pro parce que je suis addict à lui et que il va me donner la parole divine. Non, non, j'ai envie qu'il apprenne exactement ce que tu disais, Fabien, c'est-à-dire que le pro apprenne à me connaître, apprenne à me connaître moi en tant que joueur, mes qualités, mes défauts. On est tous foutus différemment, on est plus ou moins grand, plus ou moins souple, etc., etc. Plus ou moins biomécaniquement bien constitué, j'ai envie de dire. Et à partir de là, une fois qu'on connaît nos qualités et nos défauts, bah c'est à nous de tirer les coups quoi, et d'être autonome par rapport à ça. Alors évidemment, une petite piqûre de rappel de temps en temps, c'est hyper cool. Mais moi, la première base de ça, c'était être autonome. Et la deuxième, c'était que je puisse moi le challenger. C'est-à-dire que je puisse aller lui poser des questions en mode hey, « Eh gars, ça, j'ai pas compris vraiment. Réexplique-moi, mais réexplique-moi. Je comprends pas. » Moi, j'avais pas peur de dire « Non, ce que tu me dis, je comprends pas. Réexplique-moi différemment, ça marche pas. »
Et on voit trop les paroles. Et je suis content que tu fasses ce témoignage.
Ok, Simon ?
Non, mais... Moi, ce que j'ai noté, c'est qu'il y a quand même eu une inflexion dans la pédagogie. Alors, je vais prêcher pour la maison, pour notre paroisse, parce que moi, ça fait 20 ans que je ne joue plus que dans les golf Blue Green ou U-Golf. J'ai la chance de bosser un peu avec Ramucho de temps en temps. Et effectivement, moi, quand j'étais jeune, quand j'ai démarré, j'étais saoulé par les mots, les termes techniques, et il y avait un flot d'informations qui était très difficile à emmagasiner, et c'est pour ça que je rejoins Fabien, et puis beaucoup de ce qui a été dit. Je pense que la relation il faut que ça soit un peu intuitif, et les meilleurs profs, ceux qui m'ont fait le plus progresser, c'est ceux qui utilisent paradoxalement le moins de mots, mais qui ont le talent pour te faire ressentir quelque chose, et qui effectivement, à ce titre-là, ont le temps de t'observer. Et c'est pour ça que moi, j'ai jamais été fan d'aller chercher les conseils sur Internet, parce que voilà, le golf, ça se passe entre deux personnes, et si tu veux progresser, voilà, tu swings trois fois dans ton prof, et les meilleurs profs, dont Ramucho fait partie, pour moi en tout cas, ceux qui m'ont fait le plus progresser, c'est ceux qui arrivent à te faire ressentir les choses beaucoup plus qu'en te saoulant avec une foule de détails et de conseils techniques qui sont très difficiles parfois à assimiler et à appliquer.
Et surtout qui ciblent parfaitement et qui ne vont pas te donner 800 conseils, mais qui vont justement débloquer Exactement. Une à une toutes les clés. Et c'est pour ça que moi, j'embrasse mon pro qui m'entraîne, c'est Eric Belline, qui est sur l'hippodrome de Longchamp. Voilà, Eric Belline, merci beaucoup, merci à toi, tu es mon génie, merci de me faire progresser tous les jours. Merci Hervé d'avoir été avec nous également dans le Practice RMC. Laurent nous appelle, salut Laurent.
Oui, bonjour.
Bonjour Laurent.
Laurent, on t'écoute pour ta question.
Oui, j'ai une question en fait plutôt sur le circuit. Disons que entre le PGA, l'European, la Jeanne Tour, le Live, on se retrouve à avoir des joueurs un peu partout. D'ailleurs, c'est un peu compliqué à suivre. Et est-ce que justement le découpage du golf entre tous ces circuits, ça tue pas la compréhension des rankings et à terme réduire l'envie de passer pro avec un peu moins de visibilité?
Bah, il a suivi, il a vu beaucoup de compétitions. Martin Coulon, c'est pour toi cette question.
Ah, c'est étonnant. que ça puisse être compliqué de comprendre les rankings, ça oui. Alors là, je suis fondamentalement d'accord avec, avec toi. C'est pas qu'on n'y comprend plus rien, mais ça, que ça devient un peu opaque. Alors il y a le livre, pas le livre, est-ce qu'ils sont dans le classement mondial ou non, quoi, okay. Donc ça, oui, je souscris, et ça demanderait peut-être une plus grande harmonisation et peut-être deux, trois réunions avec tout le monde autour de la table. Tout le monde autour de la table, pardon, j'en bafouille tellement ça m'agace, pour mettre à plat les choses et que les choses deviennent un peu plus lisibles et pour les pros et pour ceux qui les suivent, les fans de golf dont nous faisons partie. Ta deuxième question, la deuxième partie de ta question, c'était est-ce que ça va moins donner envie aux jeunes joueurs de passer pro ? Alors là, j'ai envie de te dire non, parce que vu le nombre de circuits qu'il y a à disposition et surtout vu le pognon qu'il y a à se faire sur certains de ces plus gros circuits-là, entre il y a 20-25 ans et maintenant, si tu commences à jouer pas trop mal au golf et si tu toc-toc aux bonnes portes de certains circuits, tu peux te faire vraiment beaucoup d'argent. Et c'est à peu près ce qu'on cherche tous quand on fait une activité professionnelle et quand on est golfeur pro, c'est ce qu'on cherche avant tout. Donc sur le classement mondial, oui, sur l'attrait de passer pro, là non, clairement non.
Ok, tu veux rajouter quelque chose, Laurent ?
Non, je disais ça notamment par rapport à la visibilité qui va être un peu plus compliquée, mais c'est vrai que les gros tournois, ça donne toujours envie de passer pro pour ceux qui peuvent en tout cas.
Bon, merci d'avoir été super, merci de ta confiance et merci d'avoir été avec nous. Avant de poursuivre avec vos questions, chers auditeurs, vous le savez, dans ce podcast, il y a l'édito de Simon Dutin.
Le Practice RMC.
Depuis combien de temps jouez-vous au golf ?
Tom, ça fait vraiment depuis des années.
Et sur un parcours comme ça, depuis quand ?
J'ai 10 minutes.
Le 19e trou.
C'est déjà bien 10 minutes. Ça va rejoindre un petit peu ce qu'on a tous ressenti en jouant sur les parcours de golf, c'est d'être un petit peu lent parfois, Simon.
Eh oui, j'y sais, il y a des jours comme ça sur le parcours. Mais qu'est-ce qu'ils foutent, sérieux ? Allez, tu la joues, ta balle, enfin. Mais sans déconner, ils n'avaient pas encore putté. Hommes ou femmes, petits et grands, jeunes et vieux, en voiturette ou derrière son chariot, tout le monde est susceptible de ralentir le jeu, faire perdre le rythme à ses compagnons ou aux gens de la partie suivante. Et le point commun de tout ce petit monde, c'est que ça peut créer un peu de tension.
Vous allez me foutre le camp, ouais !
Rassurez-vous, puisque de toute façon, a priori, vous ne vous sentez pas visé. Ça n'arrive pas qu'entre gougnafiers du dimanche, le jeu lent contamine lui aussi le circuit professionnel et s'invite dans les tournois majeurs. Pas plus tard qu'au Masters en avril dernier, où Brooks Koepka, souvenez-vous, qui jouait en dernière partie le dimanche avec Jon Rahm, avait critiqué le rythme de jeu de son compatriote Patrick Cantlay, qui l'est précédé en compagnie de Victor Hovland. Koepka, qui a joué 75 le dimanche, soit 3 au-dessus du par, a laissé filer une avance de 2 coups sur Rambo, et on peut comprendre qu'il ait été un peu agacé par les bouchons sur le parcours. Oui, le groupe devant nous était extrêmement lent. Yon est allé aux toilettes environ 7 fois pendant la partie et nous avons constamment attendu, a déclaré Brooks à son retour au clubhouse. Et sans le nommer, je vous le disais, tout le monde savait de qui il parlait. Patrick Cantlay, levez-vous! Enfin, surtout, grouillez-vous! 4h50 pour jouer 18 trous à 2, c'est pas possible, frérot. Et va pas mettre ça sur le dos de Victor Hovland, parce que tout le monde a vu, par exemple, sur le trou numéro 13, que ton compère de jeu, certainement lui aussi un peu saoulé, jouait déjà son chip alors que tu traînais encore loin du green. Je vous recommande d'ailleurs d'aller voir la gueule de Rahm et Koepka qui attendaient de pouvoir jouer au départ du 16. Tu sens qu'ils vont faire équipe pour aller savater du Cantlay. Une semaine plus tard, ce bon Patrick, qui admet devant les journalistes qu'il est un joueur, je cite, « plutôt lent », mettait 1 minute 24 pour rentrer son putt de 1m30 sur le green du 9 lors du dernier tour du RBC Heritage. Ce qui fera dire à Matt Fitzpatrick, pourtant reparti avec la bourriche, que c'était, je cite, « épouvantable », que c'était une honte, en VO, bien sûr. Je ne sais pas si Didier Drogba s'est mis au golf, mais apparemment il est d'accord. La règle 5.6b encourage les joueurs à jouer selon, je cite, « un rythme prompt », ce qui laisse la place à l'interprétation. Mais bon.
Ah non, pas moi, je vous ai jamais pris pour un con.
C'est pourtant l'avis de Koepka, Fizzi et d'autres qui souhaitent que, à l'instar de ce qu'on observe fréquemment sur le circuit féminin, des coups de pénalité soient distribués aux joueurs les plus lents. Quant à nous, amateurs qui jouons pour le plaisir, voici quelques astuces, conseils pour éviter de se distribuer des coups de club dans la figure quand on a les gosses à aller chercher après avoir scoré son 125. L'évaluation de la distance au drapeau, de la ligne de putt, voire l'exécution du swing d'essai peuvent se faire pendant que l'un de vos compagnons joue son coup, si vous n'êtes pas dans sa ligne, voilà, par exemple. lorsque vous allez jouer dans un bunker, pensez à attraper le râteau avant d'aller à votre balle et entrer ainsi dans l'obstacle par le plus court chemin. Quoi que vous ayez à boutiquer dans votre sac, faites-le s'il vous plaît après avoir joué votre coup. Et autour des greens, placez votre équipement du côté qui part vers le départ du trou suivant. Si on vous a raconté une blague hilarante au boulot...
C'est Toto qui est dans l'espace, il pète dans sa combinaison et après il explose.
Ou alors si vous avez des idées de vacances à proposer...
Dis donc, pour le camp de cet été, on pourrait peut-être innover un peu. Qu'est-ce que tu penses de l'expression corporelle ?
Bah vous attendez d'être en train de marcher jusqu'à votre balle et vous laissez jouer les autres. Ou alors, et je sais que ça va en étonner plus d'un ou une d'entre vous, mais oui, c'est possible, c'est même apprécié, c'est même conseillé, vous verrez. Vous laissez passer la partie qui joue derrière vous.
Mais oui, ça peut être une solution, et là tout le monde est content, évidemment. Le jeu lent, c'est quelque chose qui peut vous agacer ou pas ? On peut revenir sur la polémique de Patrick Cantlay, rapidement. Fabien.
Ah, c'est l'enfer, l'enfer, mais totalement l'enfer. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai même du mal à jouer 18 trous, parce que je trouve que jouer 5 heures sur un parcours, c'est pas possible. Et je trouve également que ce qu'on voit à la télé sur le PGA Tour, et je trouve qu'ils ne sont pas assez intransigeants, ça ne donne pas l'exemple, parce que quand on voit des parties mettre 5h30, voire 6h, alors qu'on prône effectivement, à chaque fois qu'on va jouer au golf, le fait de dire « Allez, il faut jouer vite », mais que parallèlement, les plus grands circuits du monde ne le font pas, je trouve ça dommage.
Il y a très rarement de pénalités, hein. ça se fait jamais, hein.
Non.
Ou quasiment jamais.
Un manque de courage, jamais vu. Alors, le Tigre était évidemment très respecté, ok, mais personne, aucun arbitre n'allait, je pense, par le passé d'ailleurs, il peut encore...
Il toujours... Ben oui, il peut encore jouer, on l'espère.
voilà, donc il était très lent, il faisait un peu sa loi, ok, d'accord. Les arbitres doivent respecter, mais là, actuellement, ça fait... j'ai jamais vu encore un arbitre aller voir une partie et la menacer d'avoir deux points de pénalité pour jeu lent. Enfin, on devrait être exemplaire là-dessus. Puis tu sors de la partie de suite, quoi. Tu sors de la partie et forcément, ta perf est empathie. Enfin, c'est...
Ok, Martin.
Ouais, moi, le jeu lent, ça m'a d'autant plus gavé que j'ai été un joueur hyper lent il y a quelques décennies de ça. Donc ça commence à remonter parce que j'étais trop analytique. Tu vois, vraiment genre le vent, le machin, les bidules. Et surtout, il y avait un truc, moi, qui ça enlevait toute spontanéité à mon jeu, quoi. Et alors maintenant, je suis beaucoup moins lent, voire même, je suis plutôt du genre tendance Brooks Koepka, en mode, t'arrives, tu prends ta mesure, tu regardes la situation, tu prends ton club, le gars, il est prêt ou il n'est pas prêt, bon, moi, je joue, quoi. Moi, je fais du ready golf maintenant, genre, plus rien à kicker, ça me gonfle de passer 6 heures sur un parcours, faire des grands prix, des machins de milieu, les gars, ils se regardent le trou de balle, je dis ça très affectueusement avec tous les joueurs de grand prix qui nous écoutent, mais les gars, détendez-vous, hein, on joue, hein, on y va, on ne joue pas le master, c'est même au master, s'il joue vite. Donc c'est vraiment cette notion d'être prêt quand c'est son tour. Moi, c'est ça qui m'importe plus que de jouer rapidement. T'es prêt quand c'est ton tour, ouais. On y va.
Ready to play.
Allez, on reprend vos questions. Pierre nous appelle des États-Unis. Salut Pierre.
Bonjour tout le monde, bonjour Jean-Christophe.
Salut Pierre.
Bonjour Salut Amélie. Pierre.
On est très heureux de te recevoir. Pose-nous ta question.
Moi c'est assez général, mais en même temps je rebondis exactement sur la même chose que ce que vous étiez en train de débattre. C'est quel est le futur du golf, surtout sur tout ce qui est tracé, les futurs architectes. Parce que de vous à moi, j'ai le même sentiment. J'ai passé 6 heures sur un parcours, ça me gave, même en Floride, même s'il y a le soleil. Et justement, je voudrais savoir si justement on va aller sur cette direction-là, donc toujours plus grand, toujours des fairways tout plus larges, ou pas.
Ok, Ramucho.
Même Saint-Andrews s'est posé la question, parce qu'en 2019, il y a eu une refonte de plusieurs règles, justement, pour développer un jeu rapide. Donc il y a des aménagements de règles, justement, pour que le jeu aille... de moins en moins lentement, en tout cas de plus en plus vite. C'est sur les 5 continents, oui.
Mais l'architecture, on sait qu'avec la biomécanique, la puissance d'aujourd'hui, on rallonge de plus en plus les golfs, hein, pour les rendre plus challenging. Est-ce qu'on va vers ça ? J'imagine que c'est aussi le sens de la question de Pierre.
Ouais, après, c'est une histoire d'éducation aussi. Hein. C'est une histoire d'éducation. C'est-à-dire que les jeunes golfeurs qui viennent, on doit leur expliquer qu'il faut jouer vite, qu'il faut être prêt. Comme tu le mettais dans ton édito, Simon, je pense que ça, c'est fondamental, le côté pédagogique. Et je crois également qu'à un moment donné, il faut faire la même chose avec des plus vieux golfeurs. Et là, je te rejoins, Martin. C'est vrai, et les mecs, c'est bon, quoi. Vous ne jouez pas ni le Masters, ni le SPGA, ni un grand tournoi. On se détend, vous êtes là pour prendre du plaisir et on y va. Et de la même façon, quand on voit des compétitions, hein, toutes les semaines dans les golfs, hein, c'est hyper dur pour les commissaires de parcours d'aller voir certaines parties pour dire jouer plus vite. Parce qu'en fait, les gens, mais comme Cantlay, eux, ils n'ont pas du tout l'impression de faire chier tout le monde, quoi. Donc, c'est de la pédagogie, c'est de la transmission. Et pour revenir sur ta question de base, moi, je ne suis pas certain qu'ouvrir les parcours... Tu peux jouer avec des gens qui sont lents, tu peux faire un parcours difficile ou pas difficile. Si tu leur dis pas qu'à un moment donné, c'est quand même super chiant de jouer avec eux, ça changera pas.
Ok, mais moi, j'ai envie de savoir ce que ça va devenir le futur du golf. Vas-y, je te laisse la parole, Pierre.
Non, mais quand tu vois, si je prends moi, ma petite personne, quand tu vois sur les Américains, c'est si tu payes, alors tu peux jouer et autant que tu veux. Donc ça, le manque d'étiquette, le manque d'éducation, c'est facilement notable. Et c'est malheureux. Mais je voudrais savoir si, malheureusement, ça fait tache d'huile sur la France, l'Europe.
Alors, aux US, tu joues en voiture, hein ?
Ouais. Principalement en voiture, oui. Mais pareil.
Donc, dans l'absolu, c'est dommage qu'aux US, tu joues en voiture. Donc, par définition...
Tu devrais aller plus vite.
Tu vas plus vite.
C'est bon. Le problème, là, je suis vraiment sur l'étiquette, c'est qu'on se félicite à la fois que les codes soient un peu brisés, que le golf soit un peu moins engoncé là, dans son conservatisme et qu'effectivement, les tenues soient un peu plus libres qu'avant et qu'il y ait une sociologie chez les golfeurs qui sortent un petit peu des clichés. Mais effectivement, on a l'impression quand même que les gens sont un peu moins attentifs qu'avant. Et à ce titre-là, on peut passer 4h30 sur 18 trous de façon très différente selon, en fait, ce qui est important. C'est pas tant, finalement, le nombre de minutes. Non, mais je veux dire, c'est l'attitude. Tu vois ce que je veux dire, c'est l'attitude. Peut-être que ça peut traîner, mais quand tu vois les gens quitter le green en pressant un peu le pas, tu vois, que les gens te montrent qu'ils ont compris que ça bouge à cause d'eux.
Il y a une conscience qu'ils ne sont pas tout seuls. On n'est pas tout seuls.
Ouais, et même si au final, ça prend le même temps, que les gens te montrent qu'ils sont conscients, ça change tout à la perception et toi, au plaisir ou à ton état d'esprit, quoi.
Mais pour la question de base, ce n'est pas que je suis pessimiste, c'est que je pense que ça va prendre du temps.
Ok, ça va prendre du temps. Pierre, merci d'avoir été avec nous. On s'éclate bien aux États-Unis, ça joue bien ? Les parcours sont beaux.
Pas mal, ouais. Les parcours sont toujours nickel, ouais. C'est sûr.
Ah, c'est manucuré, c'est l'expression que prend souvent Simon Dutin.
Exactement. C'est vrai qu'il n'y a rien qui dépasse.
Bon, parfait. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir été avec nous et de nous écouter depuis les États-Unis. Mais aujourd'hui, avec le podcast, on peut tout faire. C'est absolument incroyable. Guillaume est avec nous également. Salut, Guillaume.
Bonjour à tous.
Salut, Guillaume.
Salut, Guillaume. Nous t'écoutons.
Ben alors déjà, merci à vous pour nous donner un petit peu la parole dans ce podcast. Moi, j'avais une question pour Ramucho qui concerne plus la technique et le tempo en particulier. Parce qu'on entend beaucoup de choses autour du tempo. On dit qu'il faut monter doucement, accélérer. On entend aussi beaucoup de tips et on voit beaucoup de tips sur YouTube autour d'un métronome. Il faut compter 1, 2, puis attaquer. Donc moi, j'aurais aimé un peu avoir... des exercices, des tips par Ramucho pour savoir un petit peu comment on pourrait travailler et comment je pourrais travailler mon tempo.
La clé du tempo, Ramucho.
Alors la clé du tempo, effectivement, il faut oublier qu'il y a une partie super lente, une partie super rapide. Ça, c'est la condition sine qua non. Alors un tips pour toi, mon grand. Alors sur un coup d'essai, au lieu de démarrer depuis la balle, tu vas démarrer ton club à gauche de la balle en mouvement. Et tu fais ton backswing et tu frappes. Voilà, donc tu as une spontanéité qui fait que ton club va rencontrer la balle son chemin et ça se passera tout seul. Voilà, même chose avec la balle. Hein. Je conserve la même sensation. Le club au-dessus de la balle, hop, de gauche à droite et tu swings. Parfait. Oui, c'est tout seul. Tout simplement. Au lieu d'avoir un club à l'arrêt, c'est un club en mouvement à gauche de la balle et tu te laisses guider par le monde du club.
Ok, moi j'adopte cette attitude de plus en plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au début, je commençais vraiment à l'arrêt. Et j'ai la sensation de partir partir un peu sur la gauche pour me donner l'élan. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est peut-être une mauvaise technique.
Ah non, pas du tout. C'est ultra logique. Parce qu'en fait, encore une fois, on en parlait précédemment, le fait de faire ça, ça crée du tempo, ça crée du mouvement. Et en plus, tu te sers du sol. C'est-à-dire qu'on oublie trop aujourd'hui, parce qu'en plus, on sait que c'est ultra important, c'est que dans le genre de sensation que tu as, tu te sers du sol et ça te donne du rythme. Et ça peut équilibrer fortement la vitesse à laquelle tu vas swinguer.
Martin ?
Ouais, alors encore une fois, je parle sous contrôle des autorités compétentes en la matière, les pros, vous deux, les foufous. On est d'accord que tout le monde a un rythme différent, parce que typiquement, moi, la façon dont je marche, c'est pas la même façon dont un mec comme Nick Price, si vous voyez...
Très bien, l'immense joueur de golf.
lui, c'était un Speedy Gonzales, quoi. C'était,
Ram.
Ram, ça va vite, quoi. Bam. Et
Snedeker, c'était pas mal.
Ça va vite. Et je pense que c'est intrinsèquement lié. Enfin, je vais pas faire de la psychologie de comptoir, mais à la personnalité qu'on a à chacun et à la
façon
qu'on a de marcher. Donc déjà, pour savoir ce que c'est un bon rythme, il faut peut-être déjà savoir ce que c'est son propre rythme.
Non. Alors, non, mais alors, tu as tout à fait raison. Et puis, il y a aussi une chose, c'est que pendant très, très longtemps, et on te l'a peut-être dit, je suis désolé, j'ai perdu ton prénom.
Guillaume.
C'est Guillaume.
Guillaume. Pardon, excuse-moi. Ouais. Qu'il fallait accélérer le plus tard possible. Je ne sais pas si on t'a déjà dit ça, mais pendant des années, on a dit non, il ne faut pas accélérer tôt. Alors qu'on sait pertinemment aujourd'hui que dès le haut du backswing, il faut mettre un maximum de vitesse pour qu'elle puisse être générée en bas. Et tout simplement parce qu'en fait, la balle va freiner la tête de club. Donc c'est un peu l'histoire du torchon. Quand on fait claquer un torchon, pour qu'on le fasse claquer fort, il faut être capable de mettre de la vitesse très tôt pour le faire claquer. Ben, dans un swing de golf,
c'est pareil.
Mais c'est exactement pareil. Et je te rejoins complètement, Martin. C'est que ça dépend. Il y a des gens qui vont accélérer visuellement, ça va se voir. Il y en a d'autres qui vont accélérer même plus fort, mais visuellement, ça va moins se voir. Néanmoins, la vitesse part du sol et elle est demandée le plus tôt possible dans la transition.
Très rapidement, Ramoucho.
Juste en deux secondes, un tips de rythme là que tu peux avoir sur un wedge. J'aime bien prendre les deux extrêmes. Tu prends un wedge, une balle avec le wedge, sur un rythme wedge, on va dire, et le même rythme que tu appliques avec un driver. Voilà, juste pour vraiment déjà démystifier le driver, etc. et avoir la même attitude que sur un petit club ou un plus long.
Ou sinon, tu fais des bastons de serviettes mouillées comme Fabien.
Mais
ça claque. Hein,
c'est intéressant la technique du torchon. Mais est-ce qu'il y a finalement, comme disait Martin, moi je suis assez d'accord avec lui, comment on pourrait définir son propre tempo? Parce que, par exemple, je sais qu'il y a des applications qui existent où on peut prendre son swing et qui mesurerait un tempo. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose pour déjà connaître son propre tempo aussi?
Non, mais en fait, tu ne vas pas chercher ton tempo. Tu as des outils aujourd'hui qui vont mesurer la vitesse de ton club. Et si la vitesse de ton club n'est pas suffisante ou elle est suffisante, mais il y a d'autres problèmes, on ne va pas développer, tu essayes avec un trackman, avec un flightscope, avec que sais-je. Mais c'est un peu, en fait, le tempo, le rythme et tout ça, c'est un peu des marottes et c'est souvent des excuses. Tu peux accélérer, tu peux gérer ta vitesse, mais en tout état de cause, plus le club va vite, mieux c'est.
Voilà, et moi, mon seul petit conseil à mon niveau que je donnerais, c'est vraiment d'essayer ça, c'est de partir sur la gauche au lieu de partir sur la droite, un tout petit peu, un petit temps d'arrêt,
Power
et on
brace.
Monte. Voilà, déjà, ça donnera une autre sensation. Merci Guillaume d'avoir été avec nous. Raphaël nous appelle, ce sera notre dernier, vous êtes très nombreux à nous demander des conseils, on refera un numéro, promis. Raphaël, bonjour.
Bonjour à tous.
Raphaël, nous t'écoutons.
Juste avant de commencer, une petite pensée pour le meilleur d'entre nous, Mathieu Lartaud. J'espère que ça va aller. Je porte courage à lui.
Exactement, c'est un copain de la bande.
On va le revoir très vite.
Et il est très bon au golf et je suis bien d'accord avec toi. Et le message est passé, on l'embrasse.
On l'embrasse. Alors, pour situer mon contexte, moi, comme beaucoup de golfeurs, j'arrive au mieux 15-20 minutes avant mon départ. Donc, practice zappé, échauffement va vite.
On en connaît. Hein.
Aussi, je prends rarement des cours de golf par manque de temps. Et à l'année, je fais une seule compétition, celle pour le Beaujolais, la plus importante.
Alors, j'imagine que tu veux savoir, est-ce qu'on peut vraiment progresser si on ne fait que du parcours?
Donc voilà, ma progression, c'est que je ne fais que du parcours, 2-3 fois par semaine entre amis, en match play amical et chambreur.
Ok, Martin, t'as envie de réagir?
Moi, j'ai envie de dire magnifique, c'est là que ça se joue le golf, c'est pas au practice, c'est sur le parcours, quoi. C'est là qu'on apprend le plus. Évidemment, il y a des bases à répéter de temps en temps si on veut être un peu plus efficient et gagner la fameuse Coupe du Beaujolais. Je comprends qu'elle soit très importante, celle-là, voire avec modération, machin, tout ça.
Oui.
Mais c'est génial. Attends, moi, je préfère passer un milliard de fois plus de temps à jouer et à jouer au sens propre du terme et à développer mes habiletés de golfeur sur le parcours que de passer des heures au practice à chercher je sais pas quoi, à se regarder le fessier, pour parler poliment. Quoi.
Ok, on peut progresser.
Martin.
Ah,
fantastique réponse.
Mais va sur le parcours.
Il n'y a pas d'endroit pour progresser plus le practice que le parcours. Tu progresseras, et j'ai même envie de dire, plus en allant sur le parcours qu'en allant au practice. Vive les situations, vive l'herbe, vive les bunkers, vive les greens. Donc oui, okay. continue.
Il gare la bagnole en vitesse 5 minutes avant le départ. Parcours, oui. On fait pas ouh, non, on le
mais
laisse
non.
tranquille.
Mais oui.
Ok.
Oui, tu te crées des situations que tu redoutes, des situations où tu as été en échec, voilà, avec 2-3 balles depuis le rough, sous une lave de bunker, à 15 mètres de green, à 200 mètres, voilà, tu te crées des situations de jeu et qui correspondent à la vraie vie d'un golfeur sur le parcours.
Bon, voilà.
On fait aussi rarement des formules de jeu différentes. Moi, je connais pas trop les règles des green pump pour ça.
Ah, mais ça, alors ça, je t'invite,
facilement sur Google.
On n'aura pas forcément le temps, mais déjà, tu peux chercher sur Internet. Et puis, dans la saison 1, on a fait un numéro exprès pour toutes les différentes formules pour vous amuser entre amis. Donc, n'hésite pas à aller nous télécharger en podcast. Et je vous invite tous à aller réécouter aussi la saison 1 où on a essayé et tenté de vous faire progresser au mieux. Merci beaucoup, Raphaël, et à bientôt dans le Practice RMC. Vous avez été nombreux, je le disais, à nous appeler. On refera un autre numéro avec toutes vos questions. N'hésitez pas pour là aussi vous faire progresser et vous donner quelques petits tips.
On avait une dernière question pour un auditeur, pour un joueur amateur.
Ok, c'est une surprise.
Okay. Yeah, I mean it's a good looking swing, it's very athletic.
Il m'a l'air pas mal du tout ce swing, un swing très athlétique. Vous me dites qu'il s'est mis au golf il y a 3 ou 4 ans. Eh bien, il a réalisé déjà du bon travail en peu de temps. Maintenant que j'ai vu ça, je voudrais avoir d'autres informations, comme la fréquence à laquelle il joue, quel est son volume d'entraînement, est-ce qu'il se sent prêt à faire des changements, genre, est-ce que tu veux juste jouer un peu mieux, ou est-ce que tu veux vraiment faire des progrès dans ton jeu? Parce que son mouvement est pas mal. Je pense qu'il lui faudrait rajouter un peu plus d'ampleur, et puis il y a quelques petites choses à dire sur la façon dont il libère le club, parce que j'ai l'impression, alors là encore, je dispose de très peu d'informations avec un seul swing, j'ai l'impression qu'à la libération du club, il devrait essayer de refermer cette tête de club, mais pour réussir à faire ces changements, il faut vraiment être déterminé. Et du coup, tout dépend des buts qu'il s'est fixé à atteindre.
Alors comme j'en avais un peu marre de ton slice au drive, vu qu'on joue souvent en équipe, je m'étais permis d'envoyer une vidéo de ton drive à Chris Como, ancien entraîneur de Tiger.
Incroyable.
Donc tu as la chance d'avoir ton drive analysé par Chris Como. Je l'ai envoyé aussi à Ramucho et Fabien pour que...
Et moi non.
Bah si, tu l'as, mais tu n'as pas ouvert le message que je t'ai envoyé.
Ça a un peu changé quand même.
Ça a un peu changé, effectivement, depuis, parce que c'était, je l'avais il y a une quinzaine de jours. Mais bon, voilà, tu pourras le réécouter quand même.
Mais le vrai truc, c'est est-ce que tu es committed?
Un peu. Souvent le samedi soir.
Alors,
c'est beau.
Ouais, mais bravo, Simon. Chris ne fait jamais ça, parce que dans sa philosophie, il aime voir les gens. Alors, je peux t'assurer que c'est un privilège ultime.
Être conseillé par le
chapeau bas
de Tiger
Woods,
merci d'avoir
réussi
Simon
à le convaincre de faire ça.
C'est un beau cadeau. Merci à Chris Como et j'espère qu'il pourra me donner un jour dans ma vie un cours particulier. Là, ce serait champagne pour tout le monde. Merci encore, Simon Dutin. Un cadeau exceptionnel après ce passage Chris Como à vous offrir à chaque épisode. Vous pouvez remporter un pack All For You avec Blue Green et U-Golf qui comprend un an d'enseignement avec des cours illimités, un an d'accès limité sur un certain nombre de parcours et le matériel fourni durant cette année de golf. Valeur du pack All For You, plus de 1000 euros pour le remporter. Vous envoyez golf au 732 Golf au 732-16, vainqueur tiré au sort. Et ensuite, vous viendrez nous faire un petit coucou dans ce podcast. D'ailleurs, le gagnant de l'épisode 3, il s'appelle Jérémy. Salut Jérémy.
Salut à tous, salut, merci
salut
beaucoup.
Salut Jérémy.
Jérémy, c'est souvent une question un peu absurde, mais tu es heureux forcément avec ce cadeau.
Ah, je suis super content. Moi, je vais pouvoir aller swinguer, tester mon swing, mon drive. Durant les prochaines semaines, il va faire beau, donc... Tout roule, c'est super sympa.
Un an d'enseignement, tu viens de débuter, tu joues depuis longtemps ?
Je joue depuis 10 ans, je suis index 17 et je joue au golf de Sail à Toulouse.
Ah, très
donc
beau golf.
C'est super quoi.
Ok, bon de toute façon, il faut toujours apprendre, toujours être suivi pour performer. Donc voilà, pour toi un an d'enseignement. Merci Jérémy d'avoir été avec nous et à bientôt sur RMC. Et bon golf à toi et on est très heureux de t'offrir ce magnifique cadeau avec Blue Green et U-Golf. Pour terminer le Practice RMC, on se détend un peu comme d'habitude.
Le Practice RMC Clubhouse.
Vous êtes 4 dans le studio RMC, si je me compte pas. Vous êtes 3 à être déjà passés au Clubhouse. Mmh. Simon Dutin, Martin Coulon, Ramucho Artola. Il en manque un donc, c'est Fabien Denoyan. Question courte, réponse courte, jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité?
Jury.
Le meilleur score de ta vie?
60 en compétition ou en amical?
Tu peux donner les deux.
Alors 64 en amical et 67 en compétition.
Ok, mais sur des parts combien?
Moins 8 et moins 5.
Ok. Ta distance au drive?
Solide.
Entre 2,80 et 300.
Ah oui, d'accord. Ton club préféré?
Le driver.
Un Bryson DeChambeau dans le podcast RMC, c'est sympa ça. Ton club détesté?
Le Sandwedge.
Pourquoi?
Parce que c'est un club que je maîtrise absolument pas et qui, durant d'ailleurs toute ma carrière et amateur et quand je professionnel, quand je jouais, terrible. Des hips, mais alors panique totale.
Ton parcours préféré?
Alors je vais être hyper original, Augusta National.
Ok, alors là c'est ton parcours préféré que tu as déjà fait?
Alors j'ai eu le privilège de le marcher, j'ai eu le privilège de voir le Masters, malheureusement. Pas comme Martin, je n'ai pas pu le jouer.
Ok, le mec connu que tu bats jamais?
Le mec connu que je ne... Hors golf ou golf compte?
Hors golf ou golf, comme tu veux.
Alexander Lévy.
Ok, le mec connu que tu bats toujours?
J.C. Drouet.
Ça, y a pas de doute. Avec des cartes à moins 5 et moins 8, je vais pas venir te chercher tout de suite. Le joueur pro que tu essayes de copier?
Ah, j'ai envie de dire, j'en ai plusieurs, mais évidemment Tiger Woods. Mais
s'il y a un geste qui t'inspire?
Non, ouais, ou une attitude. Ça peut être une attitude, ça peut être un geste, ça peut être. Mais oui, le top 5 mondial, mais j'ai envie de dire le top 5 mondial depuis plusieurs décennies. Moi, j'étais passionné, j'ai démarré le golf le siècle dernier. Et des joueurs comme Langer, des joueurs comme Fuzzy Zweller, des joueurs comme Raymond Floyd, des joueurs comme Lee Trevino, des gars qui avaient vraiment des swings, des gestes totalement atypiques, mais un niveau de jeu colossal. Et ça m'a toujours fasciné en disant, mais comment, en swingant comme ça, on peut atteindre ce niveau-là? Et c'est ce qui m'a aussi donné l'envie, parce que je suis autodidacte, moi j'avais pris, et c'est le paradoxe, très peu de leçons, et ça m'a clairement donné envie d'enseigner le golf en voyant ce genre de swing.
Ton plus gros craquage maintenant?
Alors, il y en a eu plein, hein. Mais mon plus gros craquage, c'était lors d'une compétition professionnelle, il y a très longtemps. C'était à Lyon, à Villette-Danton. Il y a deux parcours, il y a un par 4 qu'on pouvait driver, un dogleg droite. J'arrive, donc c'était le 9e, et j'étais 3 en dessous au départ du 9. Donc n'importe qui d'intelligent aurait tapé un coup de fer 5 au milieu du fairway. Moi, pensant que j'étais au-dessus de tout, j'ai dit mais non, je vais aller toucher le green. J'en ai mis 8.
Ah, à la John Daly.
J'en ai mis 8. Ah ouais, c'était romantique, hein. J'en ai mis 8, donc out. Et la 9e, j'ai pris mon driver. Mais ce qu'il faut absolument pas faire, je l'ai cassé sur ma cuisse.
Ok, le plus beau coup de ta vie?
Alors, le plus beau coup de ma vie, c'est une anecdote incroyable. C'est un putt, c'est assez paradoxal. C'est l'Open de France. J'étais encore amateur, jeune amateur, 88. À Chantilly, à Vineuil, et j'arrive sur le green du 7. Il y avait un petit peu de monde au départ du 5, mais on voyait pas trop qui c'était. Le green est assez long. Je jouais pas terrible, mais je pense que j'ai un putt de 25 mètres. Donc, je jouais avec Peter Fowler, qui est un pro australien, qui a gagné d'ailleurs le trophée Lancôme. Et donc, je fais deux coups d'essai. L'anonymat total, hein. On était tous les 4 ou tous les 5, il y avait peut-être des caddies. Je putt. La balle met un certain temps, elle rentre dans le trou et on entend tous des applaudissements. Donc on est un peu surpris. On se tourne et c'était Severiano Ballesteros qui venait de m'applaudir. Donc moment de gloire. Donc je garde ce shot comme un des plus beaux de ma vie. Oui.
Je comprends, ça n'a pas de prix. Ouais. Merci beaucoup Fabien de t'être
c'est moi,
à l'exercice. Simon, Fabien, Ramucho, Martin, rendez-vous au 7e épisode qui sortira bien la semaine prochaine. Le lundi 19 juin, nous débrieferons le 3e majeur de la saison, l'US Open, avec Mathieu Pavon, notre Français, qui va y participer en compagnie de Victor Pérez. Bon golf à
merci,
tous salut. Et comme dirait...
Bye bye à tous.
J'aime bien cette phrase. Comme dirait Phyllis Diler, la raison pour laquelle un pro vous demande de garder la tête sur votre balle, c'est pour vous empêcher de le voir rire.
Le Practice RMC.